Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Raphaël s'est transformé en Serge et Serge s'est transformé en Raphaël.
Alors on ne sait pas si c'est un coup de baguette magique ou si c'est la princesse qui a embrassé le crapaud, mais ou le prince qui a embrassé le crapaud. Mais voilà, je suis là et c'est pas Raphaël en effet.
En chair et en os.
En chair.
Vous allez bien,
en
Serge?
Particulièrement bien aujourd'hui, tout à fait. Je suis très heureux d'être là, très heureux de vous voir. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, donc magnifique.
En effet, et nous avons le plaisir de recevoir au micro de Judaïka aujourd'hui dans Mythe de Boss, Jennifer Debatisse. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Alors pour présenter Jennifer, vous aidez les dirigeants à améliorer leur stratégie business, à la raconter aussi, et de façon percutante, et à l'incarner avec autorité grâce... Alors il y a un terme qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est du ghost writing.
Attention à ton accent anglais, hein. C'est donc du ghost writing.
Thank you, Suresh.
You're welcome.
Yes. Dites-nous, avant de démarrer, Jennifer, c'est quoi du ghost writing?
C'est écrire à la place de dirigeant.
Ce qu'on appelait un nègre.
C'est ça.
Oui.
Donc, de l'écriture fantôme.
C'est un écrivain fantôme.
Donc vous incarnez la plume, vous êtes le cerveau droit du dirigeant, c'est ça?
Oui. En fait, la notion d'à la place n'est pas tout à fait correcte. En tout cas, ce n'est pas comme ça que moi je l'envisage. Mm-hmm. C'est vraiment le fait d'écrire avec.
Oui.
Donc effectivement, on va les aider à mettre sur papier leurs pensées, mais c'est vraiment une vraie collaboration.
Mais c'est comme par exemple un homme politique qui doit écrire son discours, c'est un peu ça, ça a toujours existé, c'est qu'il a ses scribes ou ses assistants.
Ouais. Mais donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, et notamment sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn, qui est un peu ma plateforme de prédilection.
On va évidemment aborder tout ça avec vous. Jennifer, si on faisait d'abord connaissance, vous venez d'où? Je sais que vous venez pas de Bruxelles.
Non, je viens de Mons.
Vous êtes originaire, vous êtes montoise?
Oui, dans le coin. Donc je viens du Borinage,
oui.
Même si l'essentiel de ma vie professionnelle est partout ailleurs. Mais voilà.
Vous avez grandi, vous êtes née où?
Je suis née à Boussu.
À Boussu.
Donc vraiment tout près de Mons. Mm-hmm. J'ai fait l'essentiel d'une partie de mes études là-bas, avant de partir à Bruxelles.
Et après, vous faites vos humanités là-bas, et puis vous partez à Bruxelles, quoi, à 18 ans?
Pour faire Solvay pendant 5 ans. Et puis, ma carrière professionnelle s'est déroulée à Bruxelles.
Alors, on aime bien aussi un peu comprendre le contexte familial à la maison. Les parents étaient indépendants. C'était quoi dans quel environnement vous avez grandi?
Une famille essentiellement composée de profs.
Ah.
Pour faire simple.
Oui.
Ou en tout cas, pas du tout d'entrepreneurs ou d'indépendants, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur le tard.
Et aller étudier
toute une série de choses.
Aller étudier le commerce dans une famille qui n'était pas commerçante ou commerciale, c'était naturel aussi, c'était bienvenu, c'était pas bienvenu, c'était rompre avec l'histoire.
C'était pas à ce point-là, mais personne ne connaissait Solvay dans mon entourage, et moi non plus d'ailleurs.
Mm-hmm.
Et ma grande chance, je la dois à un prof de maths, Monsieur Gallet, qui lui formait des étudiants pour Solvay, et qui m'a dit « mais tu devrais tenter Solvay ». Et voilà, l'histoire s'est faite comme ça.
Il n'y avait pas une vocation de devenir prof comme les parents?
Non, je pense que j'aurais fait, à l'époque on parlait d'ingénieur commercial, je l'aurais fait à Mons, bêtement. Mais donc voilà,
c'est l'IAG.
J'ai eu la chance à Mons, à l'époque.
Non, c'est pas
l'IAG. C'est l'UMH.
L'UMH.
Aujourd'hui c'est l'UMons.
Oui, maintenant c'est l'UMons. Et c'était Waroquet à l'époque.
Ouais.
Mais donc voilà, Solvay a été quand même très très déterminant dans ma vie. Et ce fameux monsieur Gallet à qui je dois beaucoup finalement.
Vous en retenez quoi de ces études à Solvay? C'est vrai qu'on le souligne souvent, Serge. Bah Serge est également passé par
On a la chance d'avoir beaucoup de gens qui ont usé leurs culottes sur les bancs de l'école de commerce Solvay, qui nous viennent nous voir.
Ouais. Et vous en retenez quoi de ce passage? Ça vous a aidé? Ça vous a formé?
Alors, en toute transparence, j'ai failli mourir les premières années.
Pourquoi? Ouais, parce que c'était dur.
Parce que c'était dur, parce que, à mon avis, je n'étais pas complètement préparée. Et puis surtout, parce que j'avais le syndrome de la première de classe, de la bonne élève.
À l'ULB, c'est impossible.
Et donc, je voulais faire 20 sur 20 partout. Et donc, je pense que... Alors, elle était très relative, mais je me suis pris la première baffe, entre guillemets, de mon histoire. J'ai vraiment eu du mal, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Et donc, voilà, j'ai vraiment trimé les deux premières années. Et puis, ça s'est facilité. Et ouais, je le disais, ça a été tout à fait déterminant à l'échelle de ma vie.
Mais avec quand même un côté, bon, on a l'UNIF, on guindaille un peu.
Je guindaillais pas, moi.
Ah, vous étiez vraiment
sérieux. Il fallait faire 20, Laurent, on n'a pas le temps de guindailler.
Il nous est arrivé de rencontrer des entrepreneurs qui effectivement...
Oui, mais il ne voulait pas faire 20, si tu voulais faire 20. Ouais,
moi, je ne guindaillais pas, et puis, en fin de compte, je ne faisais pas 20. Hein. Donc... Oui. Mais donc non, j'ai mal commencé ces études.
Mais qu'est-ce qui vous a à un moment mieux, enfin j'ai envie de dire, comment est-ce que vous êtes parvenu à trouver votre rythme de croisière
Il était juste pas question, je pense que c'est ça qui, c'est un truc qui me caractérise, il était juste pas question que j'échoue, et donc j'ai vraiment eu du mal à accepter que j'avais du mal et que c'était comme ça. À travailler quasi jour et nuit, alors vraisemblablement très très mal les deux premières années. Et puis après, les choses se sont simplifiées pour moi et les dernières années ont été très très fluides. Et donc, première année, je suis passée tout juste et puis j'ai terminé avec une grande 10, donc c'était un chouette parcours.
On a aussi pour vocation dans Mythe de Boss d'inspirer des futurs entrepreneurs, des étudiants qui nous écoutent, qui sont peut-être à la sortie ou à l'aube de certains choix de carrière. Avec le recul, outre le fait de vouloir la perfection, qu'est-ce qui vous a manqué peut-être pendant vos études d'humanité ou en termes de formation ou en termes d'accompagnement ou en termes de pédagogie pour justement trouver une certaine forme d'harmonie?
J'en sais rien, ça commence à faire vieux en fait. Hein, si,
mais ça vous a marqué, hein?
Oui, maintenant j'ai pas de réponse toute faite. Est-ce que c'est le niveau d'études qui était un peu
plus bas,
plus bas que ce que j'allais être, ce à quoi j'allais être confrontée à se lever. Il y a peut-être en partie ça. Et puis bêtement, ça, je pense que c'est moi qui ai fait des erreurs, qui n'avait pas les bonnes méthodes de travail, etc. Donc j'irai pas chercher très très loin. Je crois que j'ai mal géré ces deux premières années. Maintenant, c'est très relatif, hein, je les ai réussies. Oui.
Vous êtes là, après être sorti, avoir fait un parcours assez brillant, parce que quand vous sortez de Solvay, qu'est-ce qui se passe? Vous allez où? Vous faites quoi et pourquoi?
Je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire.
C'était comme cinq ans avant, en fait.
C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est le grand drame quand on n'a pas de vocation dans la vie. Ingénieur de gestion commerciale à l'époque, c'est un peu le choix par défaut.
C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. En fait, c'est des études qui sont des non-choix. Enfin, on peut en parler, on a fait la même chose. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on fait ça. Et puis après, on sort, on ne sait pas trop où on va aller, mais on va. Ouais.
Très très large, et à l'époque, je fais toute une série de candidatures spontanées, notamment chez Electrabel. Alors, il faut remonter...
On est en quelle année, là, Jennifer?
99. Les années 99-2000, oui.
Donc, Electrabel qui n'est pas encore acheté par Engie.
Non. Et on est en plein dans la libéralisation du marché de l'énergie. Donc, la chaîne de valeur éclate. Super compliqué. La production, la distribution, le transport, etc. Donc, en termes de gestion du changement... Et on ne parlait pas encore de gestion du changement à l'époque, vraiment compliqué. Et je me dis, c'est un contexte quand même qui est très, très intéressant. Et donc, candidature spontanée chez Electrabel. Et à l'époque, surprise, je reçois une réponse positive du département communication, qui n'est pas spécialement le département par excellence dans lequel on postule quand on finit Solvay avec une option finance en plus. mais à l'époque, et ça a été nouveau, très très déterminant dans mon parcours professionnel, je suis reçue par Sophie Dutordoir, qui était à la tête du département communication d'Electrabel, qui a pris la tête d'Electrabel ensuite et qui est à la tête de la SNCB aujourd'hui. Et je me dis, cette dame est super inspirante, je veux travailler pour elle, peu importe ce qu'elle me propose. Et donc, ça a été la com, et à nouveau, et on le comprendra après, ça a été très, très déterminant aussi à l'échelle de ma vie.
Et puis d'ailleurs, de manière générale, on peut dire que la communication dans ce genre d'entreprise, dans une entreprise qui n'était pas spécialement orientée sur la communication, mais qui allait devoir apprendre à communiquer de manière beaucoup plus, poussée, de manière plus précise, était aussi une opportunité.
Mais c'est fou et on en parlera après, mais c'est à partir de ce moment-là que se dessine, et je ne le sais pas encore, évidemment, la suite de ma carrière professionnelle. Parce qu'effectivement, il y avait un gros enjeu. Ce qui se passait était extrêmement complexe et il fallait le raconter. Et ce n'était pas si simple que ça de le raconter. Et donc, je pense que ce que Sophie cherchait à l'époque, c'était quelqu'un plutôt jeune, avec une tête plutôt bien faite, une bonne plume. Et ça, c'est un talent que j'ai depuis toujours, qui allait être capable finalement d'aller discuter avec les uns et les autres et vulgariser ce qui était en train de se passer au sein de l'entreprise.
En structurant les choses aussi, j'imagine.
Et donc, quelque part, je devais un peu raconter l'histoire de la libéralisation. Alors d'abord, au niveau de la com interne, j'y suis quand même restée 4-5 ans dans ce département. J'ai eu l'occasion de faire tous les services d'un département communication à l'époque, mais de la com externe aussi. Et donc, effectivement, les premières campagnes de pub, sponsoring. J'ai même été responsable du un service qui s'occupait des photos, des vidéos, etc. Donc, j'ai vraiment roulé ma bosse dans le département communication.
Et ça dure combien de temps ? 4-5 ans et après ?
Et après, je me dis que le fond me manque. Je suis
le fond
qui,
ou le sens
Non, le sens pas. Je pense que je l'avais, le sens. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup le contenu, la substance.
Et vous n'en aviez pas suffisamment?
Si, mais à l'époque, j'étais notamment impliquée dans les campagnes de publicité, etc. Donc, je faisais plein de choses qui étaient passionnantes. Le monde des agences de pub, etc., qui était un monde auquel je n'étais pas du tout prédestinée. Donc, je découvre tout ça. Et puis, Dieu sait si c'était un peu sexy, avec beaucoup de paillettes et tout ça, à l'époque en tout cas. Mais donc j'étais beaucoup dans le... je ne sais pas comment ça a évolué.
Et c'était, à l'époque, c'était moins qu'aujourd'hui. Non, c'est plus qu'aujourd'hui et il y a 30 ou 40 ans, encore plus qu'à l'époque, c'est ça?
Mais le fossé entre Electra Bell et effectivement, ne fût-ce que l'environnement des agences de publicité, etc., était pour moi très... le fossé était grand. C'était pas
culturellement.
Pas du tout le même type d'univers. Donc non, je ne suis pas en train de dire que la com était un truc qui était superficiel, etc. Mais j'avais besoin de rentrer dans le fond de dossier, même de passer des jours entiers derrière mon ordinateur, etc. Et on en vient finalement à ce qui m'a suivi pendant toute ma carrière, c'est vraiment la stratégie d'entreprise pure et dure. Et donc, au terme de ces 4-5 ans, je me dis, j'ai envie d'aller vers des fonctions, d'autres choses.
Et chez Electra Bell aussi, ils ne vous proposaient pas, il n'y avait pas ce type d'orientation à prendre?
Si, mais donc je reste chez Electra Bell.
Ouais.
Et en fait... Je suis un peu Sophie Dutordoir qui, à l'époque, prend la tête de, je crois, d'un truc qui s'appelait Marketing and Sales ou quelque chose comme ça. À ce moment-là, je commence à faire des... Alors, on n'était pas vraiment dans de la stratégie d'entreprise, mais dans ce qu'on appelle la competitive intelligence, donc des analyses de marché, etc. Et tout ça est très cohérent à nouveau parce que Electra Bell était confrontée, en tout cas sur le segment retail, à la concurrence. Ça n'était jamais arrivé.
À la libéralisation de l'électricité.
Ouais, mais donc, les analyses de churn, de prix, etc., c'est à ce moment-là que ça débarque.
Le churn, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas, ce sont les gens qui quittent, qui sont abonnés et qui quittent leur abonnement.
Donc, c'était jamais arrivé à l'époque. Et donc, on commence à faire des analyses de marché très, très poussées, des analyses de prix, de positionnement prix, etc. Et là, autre grand coup de chance dans ma carrière, débarque à la tête du service dans lequel j'étais un autre grand nom, Pierre Winch, qui est aujourd'hui gouverneur à la Banque nationale et qui a aussi été très, très, très important.
Mais
à la chaîne.
En fait, pour faire une carrière, il faut rester près de vous, en définitive. Et il y a toujours quelques bonnes personnes qui arrivent. Vous attirez les gens.
Beaucoup, beaucoup de chance, oui.
On fait une petite pause musicale, on vous avait demandé un choix, le bonheur.
Oui, je me souviens que j'ai pas simple de choisir une chanson, mais à l'époque, j'avais envie de quelque chose de résolument positif et optimiste.
On se retrouve dans quelques instants.
N'ayez pas peur du bonheur. Il n'existe pas, ni ici, ni ailleurs. Da-di-da-di-da, da-di-da. Nous allons mourir demain. Ne dites plus rien. Le bonheur conjugal restera de l'artisanat local. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Je vais vous. Là, à nos pieds dévoilés, il nous ferait presque tomber. C'est dommageable qu'on ne vive qu'une seule fois. C'est le temps d'une joie qui s'offre comme vous à moi. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser. Je vais vous.
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's
un. Nous avons le plaisir de recevoir au micro de Mythe de Boss aujourd'hui. Bien évidemment, à mes côtés, Serge Bézère.
Oui, mais ça, c'est pas exceptionnel. Hein.
Voilà. Pour le fan club de Raphaël Abou, contrairement à ce que vous avez pu lire, entendre...
Ils peuvent utiliser du morphing, mettre ma tête ou bien transformer voilà. Ma voix éventuellement.
Ça aurait pu,
oui, mais il n'est pas là, il est à Londres, voilà. L'enfant a dû partir, voilà.
On le salue. Nous recevons aujourd'hui Jennifer de Baptiste, Jennifer qui a également une agence qui s'appelle Bliss Agency. Pourquoi Bliss Agency ?
Alors ça, c'est la question qui tue. Il n'y a pas de raison. Donc Bliss était vraiment une agence qui est à la jonction entre la boîte de conseil en stratégie et l'agence de com. Et j'imagine qu'on y reviendra après. Mais je voulais un nom qui dénote un peu, en tout cas dans le monde du conseil en stratégie, etc. Et ça me semblait un peu...
Parce qu'il faut expliquer que tu viens directement sur le nom, mais avant de venir au nom de l'agence, on faisait le parcours.
Oui, mais on va y revenir, mais parce que voilà, je présente Jennifer, donc accessoirement, si celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou en podcast, parce qu'on retrouve également l'émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast, si on Google votre nom, évidemment, on tombe sur votre profil
BLI. 2S, Belly 2S, ouais. Bliss.
Vous étiez donc en train de nous expliquer que vous étiez chez Engie, enfin Electrabel, à l'époque. Vous trouvez du fond dans ce que vous faites, avec effectivement avec ce changement déterminant dans l'univers de l'énergie, c'est la libéralisation. Donc d'autres acteurs arrivent, la concurrence, des clients qui partent, des clients qui arrivent. On est dans un contexte quand même où les prix de l'énergie sont relativement stables. On n'est pas comme depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, où on a l'impression de jouer aux montagnes russes avec sa facture d'énergie, qu'on soit une entreprise ou un particulier. Qu'est-ce qui se passe après dans votre parcours? Vous continuez à tracer votre route en interne, dans le corporate?
Non, mais donc oui, en l'occurrence.
Oui.
Je fais effectivement la rencontre de Pierre Wunsch à l'époque, avec effectivement mon arrivée finalement dans la stratégie au sens large.
L'entreprise, oui.
Et je vais peut-être le glisser ici parce qu'à nouveau très déterminant pour la suite. Pierre est la personne qui m'explique comment raconter des histoires et qui me fait prendre conscience de ça. Donc, je pouvais passer des jours à réfléchir sur des trucs complexes, etc. et revenir avec une brique de slides dont j'étais très, très fière. Il ne regardait pas les slides. Il me disait, Jennifer, en 3 minutes, quelle est l'histoire que tu cherches à me raconter? Mais vraiment systématiquement, tout le temps. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une des propositions de valeur assez clés.
Donc, rationaliser le contenu.
Être en mesure de le raconter de façon extrêmement simple et susceptible de convaincre tous les types d'audience. Et puis, il y avait évidemment, après, on rajoutait de la chair, des détails, etc. Mais quel est le fil rouge de l'histoire que tu cherches à raconter?
Pourquoi est-ce que cette faculté aujourd'hui, elle est encore plus importante? Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est aujourd'hui plus que jamais, c'est critique d'arriver à avoir ce storytelling, cette histoire qu'on veut raconter pour capturer l'audience. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est quelque chose qui est critique?
Ouais. C'est vrai que où qu'on aille aujourd'hui, quoi qu'on écoute, etc., cette notion de storytelling, et j'entends le terme de narratif, qui est de plus en plus présent un peu partout, et là, a fortiori dans le contexte des élections, il y a beaucoup de matière là-dessus aussi, avec la nécessité d'avoir de nouveaux narratifs, de façon à aider les gens finalement à se projeter aussi dans le futur. Donc oui, cette notion d'histoire est très très importante un peu partout. Est-ce qu'elle est plus importante qu'avant? J'imagine que oui.
C'est pas lié à la quantité de contenu, à l'exposition, au temps d'exposition qu'on a aux médias, ce genre de choses-là? Vous pensez pas qu'aujourd'hui on est tellement bombardé, on sait, il y a des statistiques, je les connais pas par cœur, mais il y a des statistiques sur le nombre de messages qu'une personne voit par jour, et donc l'exposition qu'il a des messages, la longueur de ses expositions. Pour se rappeler de quelque chose, il faut que ça dénote visuellement, mais il faut aussi que ça soit raccord quelque part par rapport à nos valeurs ou à qui on est.
Mais c'est vrai que ça me désespère, à nouveau, hein, moi qui aime tout ce qui est temps long, pensée profonde, etc. J'imagine que c'est toutes des caractéristiques que partagent les gens qui aiment la stratégie. Mais j'entendais effectivement une interview récemment, les gens ne prennent plus le temps de lire un article de fond. Et donc oui, effectivement, il faut pouvoir très rapidement les capter avec une histoire qui soit simple et porteuse de sens.
Il suffit aussi d'ouvrir un journal et on voit bien que les informations les plus importantes sont mises en caractère gras. On résume, on met en grand parce qu'il y a des gens qui ne lisent plus que ça aussi, hein, évidemment.
Ouais,
et là, on est dans quelle année, comme ça, on continue la chronologie de votre parcours
À mon avis, on va la perdre à un moment donné.
Mais vous restez combien de temps? Alors, je reformule ma question. Alors, vous restez combien de temps chez Electrabel?
Je dirais une dizaine d'années.
Okay.
Un petit peu moins de 10 ans maintenant que je fais un peu moins de 10 ans.
Et vous poursuivez dans le corporate ou vous faites le grand saut?
Non, à ce moment-là, je suis toujours dans le corporate. Je pars chez Sibelga. Alors Sibelga, c'est un distributeur en l'occurrence d'électricité et de gaz à Bruxelles. Je suis engagée par le CEO de Sibelga, qui cherche une forme de... Alors, bras droit, hein, c'est sans doute exagéré à l'époque. Je pense qu'il ne parvient pas à nommer ce qu'il cherche. Hein, il a besoin
c'est plus politisé,
d'aide.
Sacy Belga, non ? On est dans quelque chose qui est plus politisé, non ?
Oui, un petit peu.
On a une vue un peu plus intercommunale, un peu plus...
Je ne le vois pas comme ça, parce qu'à l'époque, Sacy Belga est assez récent. Le CEO, en l'occurrence, est arrivé quelque temps avant. Et il a du mal, en fait, il a du mal. C'était quelqu'un d'extrêmement visionnaire. Donc, pour le coup, il avait du mal à rien faire. Et il n'avait certainement pas besoin d'aide au niveau de la stratégie pure et dure. Mais là où il a un peu plus de difficultés, c'est à coucher la stratégie sur papier, à la faire sortir de sa tête. Et donc, je me souviens que c'est la première mission qu'il me donne. C'est aide-moi à coucher sur papier.
Soit mon cerveau, en fait.
Non, parce qu'il réfléchissait très bien tout seul. Soit ma plume.
Oui, ma plume.
Et soit mon miroir aussi. Donc ouais,
vous travaillez en tandem, alors, à ce moment-là
Oui, même si... tandem me met un peu mal à l'aise parce qu'il est... c'était vraiment... il a pris sa retraite depuis lors, mais c'était vraiment un cadeau. Moi, je me sentais toute petite. Mais néanmoins, il avait besoin de pouvoir exprimer les choses.
Le principe du sparring partner à la boxe, la même chose.
Sauf qu'à la boxe, t'es censé mettre l'autre KO. Mais
Non, c'est je t'entraîne, quoi. On est là pour entraîner.
On s'envoie la balle.
Mais ma valeur ajoutée, je pense, était de nouveau, et elle est encore là aujourd'hui, c'était le fait d'être capable de structurer et d'injecter de la logique dans une pensée qui était complexe.
Et de challenger.
Et de challenger un minimum. Mais il avait aussi son comité de direction.
Et là, vous restez combien de temps?
Là, je reste 7-8 ans, jusqu'en l'occurrence 2016. Donc je sais. Et donc là, je suis à la tête d'un département stratégie. Il me donne une chance assez incroyable aussi, et il m'en a donné plusieurs, mais c'est celle d'intégrer le conseil d'administration d'Elia.
Quel régulateur officiel
qui est pas Non, il n'est pas régulateur, c'était le transporteur.
Le transporteur.
D'électricité et de gaz, mes sociétés cotées au Bel 20, etc. J'avais, la grosse louche, 35 ans à l'époque. Donc, grande chance de faire partie d'un conseil d'administration comme celui-là.
Mais qui était le bras, un petit peu, là, le bras armé de politique, Elia ?
Non, pas vraiment.
Non.
C'est une vue complètement erronée de cette industrie, là.
Je pose des questions, hein. On s'informe. Qu'est-ce qui a marqué la transition ? Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment de quitter ce monde du corporate pour vous dire, OK, cette fois-ci, je vais travailler pour moi, mais pour d'autres sociétés, mais pour moi ?
Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant toutes ces années-là, et ça, c'est les concours de circonstances de la vie, j'ai l'occasion d'accompagner une amie dans la création de deux sociétés. Alors, c'était elle, la cheville ouvrière, mais néanmoins, je l'aide finalement à dessiner la boîte entreprise. C'est elle qui amène le projet, mais je vis quand même ça avec elle pendant quelques années. Et ça me titille.
Ça te donne envie.
Je sens une fibre entrepreneuriale. Alors, c'est un super grand mot qu'on me connaît, parce que je pense que ma fibre entrepreneuriale, elle est très... elle existe, sinon je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, mais elle est beaucoup plus développée chez d'autres personnes. J'ai une aversion au risque qui est extrêmement élevée aussi. Mais néanmoins, ça me chipote. Donc, il y avait eu ça. Sacy Belga, j'étais là depuis 7-8 ans et je commence un peu à tourner en rond. Et en plus, cette personne avec qui je travaille pendant toutes ces années va prendre sa retraite. Et je vois beaucoup moins d'intérêt dans l'après. Et donc, tout ça me titille. Et je me souviens d'un moment très clairement dans un comité de direction où je suis très critique. Alors ça, c'est pas grave d'être très critique parce que je pense que je
positif.
Suis toujours dans une critique positive et c'est quelque chose que je défends très très fort aujourd'hui. Mais là, je suis pas non seulement critique, je suis négative et je vais même un mot au-delà de ça, je me sens cynique. Tout m'énerve et je n'aime pas ce que je deviens et je n'aime pas l'image que je renvoie de moi. Et je me rends compte que je commence à faire partie, moi, du problème et plus de la solution. Et à partir de là, j'avais deux solutions. Soit je continuais sur les rails sur lesquels j'étais. J'aurais pu très bien sauter ailleurs, toujours dans le monde corporate. Soit je prends mon courage à quatre mains et je décide effectivement de plonger dans ce qui était pour moi le c'était vraiment inconnu pour le coup. Alors effectivement, j'en parle aujourd'hui à des entrepreneurs. Ils ne voient pas le souci, mais quand on est comme ça pris dans les rails d'une, quelque part d'une autoroute sur laquelle j'étais depuis finalement la sortie de mes secondaires, c'est quand même extrêmement compliqué d'en sortir. Quand on a choisi comme ça le chemin de la carrière, un peu de la norme aussi. Et puis j'avais tout ce que j'avais toujours voulu avoir. Ma fonction était non seulement très très bien valorisée, entre guillemets, mais très valorisante aussi. Et donc il n'y avait absolument aucune raison que je quitte ça.
À part votre sentiment personnel.
Enfin, aucune raison, oui. Et à la limite, toutes les raisons de le quitter. Mais la décision n'a pas été simple. Et à nouveau, elle peut être très, très simple pour certains. Et là, je veux dire à tout le monde qui est potentiellement dans la situation, cette situation-là, ça peut être aussi très, très complexe. Et je pense que j'ai eu besoin de plusieurs mois pour faire le passage.
C'est une décision que vous prenez seule ?
C'est une décision que je prends seule, oui, parce qu'à l'époque, je suis dans un chapitre de ma vie où je suis seule, pour le coup, célibataire, avec deux enfants. Et alors, on se dit aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, on se sent quand même
partie des contraintes.
Un minimum de responsabilité. Et on sait effectivement que quand on prend ce type de décision, ça aurait des répercussions en cascade sur... sur tout son microcosme familial, etc.
Mais idem au niveau de tout ce qui est coaching, donc c'est pas là que vous touchez aussi.
Non, je pense que j'en discute beaucoup autour de moi, et je pense qu'il y a été parce que j'ai été tétanisée en fait. Décider de faire quelque chose et le faire vraiment, il y a quand même toute une marge. Et je rencontre beaucoup de gens à l'époque. Donc non, je ne me fais pas coacher, etc. C'était peut-être un peu moins à la mode aussi. Mm-hmm. Enfin, à la mode, ce n'est pas le bon terme, mais qu'aujourd'hui. Par contre, je vais quand même à la rencontre de beaucoup, beaucoup de gens pour essayer finalement d'apprivoiser un peu ce territoire qui était complètement inconnu pour moi.
Et qu'est-ce qui, vous, à un moment, vous rassure ou vous dites « Ok, c'est bon, là j'y vais je prends mon courage à deux mains et je plonge. » Il y a eu une rencontre, un premier client, une étape importante ?
Non, j'y vais comme d'hab, de façon très, très pragmatique, en me disant j'ai l'habitude d'écouter ma petite voix. Donc voilà, ce que je devais faire était quand même très, très, très clair. Il fallait juste que je démonte tous mes conditionnements, les croyances limitantes, la pression sociale, etc. Et je me dis assez vite que le seul moyen d'y arriver, c'est de passer à l'action. Alors, et c'est peut-être ça en fait la solution du truc, je voulais absolument quitter le monde corporate, mais ce que je voulais faire n'était quand même pas limpide non plus. Et donc je me dis, et c'était assez évident pour moi, je vais me lancer dans la consultance parce que j'avais eu l'occasion, moi, de travailler avec tous les consultants du monde. Enfin, j'exagère un peu, mais en tant que cliente pour le coup. Donc c'est quand même un métier que je côtoyais depuis un certain temps. Et donc je me lance comme consultante en stratégie transformation d'entreprise. Et je décide, pour essayer de minimiser un peu les risques, de rejoindre l'écosystème d'une boîte que j'aimais beaucoup. Donc je reste freelance, indépendante, etc. Mais j'ai une collaboration très privilégiée avec eux et je les aime beaucoup. De très très chouettes valeurs, une approche un peu plus innovante. Tout petit à l'époque, et puis ils avaient envie de grandir. Je pense qu'ils cherchaient aussi un rôle modèle un peu féminin. Et je les aide à la fois à faire leur propre stratégie, et puis en même temps à décrocher mes propres premiers clients aussi en stratégie.
C'est votre premier client ? Premier client et catalyseur.
Oui, c'est ça, catalyseur, j'aime bien. Ouais. Catalyseur, j'aime bien. Et ils m'ont beaucoup rassuré, etc. Donc, c'est aussi une rencontre.
Mais on est loin de Bliss à ce moment-là encore. On n'est pas encore du tout. On n'est pas encore ni dans Bliss ni dans le ghostwriting.
Non, du tout.
C'est vraiment encore la stratégie d'entreprise, etc.
Ouais.
Et qu'est-ce qui fait un moment que vous vous dites, voilà, je vais créer mon agence.
Oui, quand on a envie d'avoir le moment, c'est l'étape d'après.
Donc je reste là, en tout cas dans la consultation stratégique, etc., 4-5 ans. Donc en gros, il y a 3-4 ans, pour faire simple. Et puis pour plein de raisons, nos chemins se séparent un peu. Et à ce moment-là, je me dis, ça y est, maintenant je suis prête.
Là, c'est bon.
Là, c'est un temps. Et je me dis effectivement, là maintenant, je suis prête. J'avais déjà fait le pas, mais je ressens le besoin de créer un truc à moi.
Ouais.
Et de créer une marque. Alors c'était, et ça reste toujours dans une certaine mesure assez symbolique, mais j'avais besoin d'avoir une marque, une proposition de valeur. Et qui allait me laisser la possibilité de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est effectivement la naissance de Bliss. Donc, il va fêter ses 3 ans en avril.
Alors, Bliss, c'est quoi, Jennifer ?
La joie, une joie énorme. Si on regarde sur Internet, c'est, la définition de Bliss, c'est une joie incommensurable.
Ouais, vous êtes magicienne.
Non, finalement, ce nom choisi un peu au hasard fait beaucoup de sens. Mais la proposition de valeur de Bliss est en fait assez simple. Et maintenant que j'ai raconté tout mon parcours, on voit en fait que c'est simplement les briques qui vont s'ajouter les unes aux autres. Et c'est ça qui rend le truc très beau, en fait, ou en tout cas très cohérent. La proposition de valeur de Bliss, et vous l'avez cité en introduction de l'émission, c'est Bliss aide les dirigeants et décideurs au sens large à optimiser leur stratégie d'entreprise. Donc là, on est bien sur le fond, à la raconter sous la forme d'un récit suffisamment simple et porteur de sens. Et ça, c'est beaucoup plus récent puisque ça a quelques mois, à l'incarner, notamment par le biais du ghostwriting sur LinkedIn. Et cette dernière partie est arrivée, en fait, je disais tout à l'heure, un peu par hasard. Et j'allais dire malgré moi, et puis finalement, aujourd'hui, les planètes s'alignent. C'est que des dirigeants d'entreprise m'ont dit, mais Jennifer, tu nous as aidé à optimiser notre stratégie, tu nous as aidé à la raconter. Maintenant, aide-moi, s'il te plaît, à l'incarner.
Optimiser la stratégie, c'est ce que vous avez toujours fait ? C'est ce que vous faisiez avant aussi. Donc, c'est la partie... On sent que dans tous vos changements, il y a toujours des moments charnières. Mais que le nouveau job reprend un petit peu la fin du passé pour aller vers quelque chose d'autre avant d'avoir une... Il n'y a pas de véritable coupure. Donc, il y a toujours une continuité.
Non, donc il y a vraiment beaucoup de cohérence. Donc, l'optimisation de la stratégie, etc.
C'est la continuité.
C'est ce que j'ai fait un peu chez Electrabel, beaucoup chez Sibelga et ailleurs. Pourquoi optimiser la stratégie ? Parce que je voulais être très réaliste aussi, je me lançais, il y a les Cador, McKinsey, Bain, etc., on les connaît tous. Comme mes clients sont essentiellement des corporates, donc des grosses boîtes, etc., j'avais envie de rester aussi très, très humble.
Et justement, la relation avec ces gens-là, elle est comment ? Parce que si on est à côté, généralement, quand on a McKinsey, Bain ou BCG qui sont dans la place, ils sont tous dans la place souvent, ou ils sont plusieurs. Et vous trouvez votre place là-dedans, vous avez votre positionnement. Ils vous connaissent aujourd'hui comme étant quoi le...
Non, je crois qu'ils ne me connaissent pas. J'aimerais bien, mais en toute transparence, je crois qu'ils ne me connaissent pas. J'arrive souvent après eux, en fait. Donc,
quand eux ont coûté très cher et beaucoup d'argent.
Ouais, mais qu'ils ont fait aussi, la plupart du temps, un boulot assez fantastique. Oui, waouh. Alors, c'est sans doute pas toujours le cas, etc. Mais enfin, waouh. Mais effectivement, souvent, c'est des decks de slides qui sont quand même très, très, très arides. Arides dans une certaine mesure, très complexes. Et donc, parfois, je pense, et ça n'a rien de... On le lit souvent, hein, quittent les boîtes alors que les boîtes ne se sont pas complètement appropriées la matière. Donc j'arrive régulièrement, mais ça c'est un des cas de figure où, et c'est arrivé récemment, on me tend le deck d'un de ses consultants en me disant s'il te plaît, rapproche-le de moi, rapproche la matière.
Qu'est-ce
de
que
moi
ça veut dire entre guillemets ?
Comment est-ce que je peux l'incarner ?
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Oui. Et parfois, c'est compliqué à comprendre. Donc, c'est vraiment le fait de tirer encore un tout petit peu la matière vers le bas ne veut rien dire, mais de façon à ce qu'il puisse l'accrocher, se l'approprier.
On parlait du ghostwriting, vous nous l'avez expliqué. Comment est-ce que vous abordez, vous, l'intelligence artificielle dans votre travail ? Est-ce une aide ou une menace, selon vous ?
Je le vois pas comme une et je ne veux pas le voir comme une menace, même si y a plein de nuances à introduire, etc. Non, très très certainement une aide à certains niveaux. Maintenant, moi, un de mes gros facteurs différenciants sur le ghostwriting, parce qu'il commence à y avoir une forme de concurrence, c'est de d'être capable et d'avoir très envie et de trouver beaucoup de sens à écrire des posts, en l'occurrence, parce que c'est ce que je fais quand même le plus, avec énormément de substance, de contenu, de donc le fait de rédiger est une chose qui est super importante. Il faut la plume, il faut connaître un minimum les règles de copywriting, l'algorithme, etc. Mais ce qui est en fait tout à fait décisif, c'est d'être capable de pouvoir développer un point de vue sur une problématique X. Et ça fait l'objet vraiment d'une discussion avec le dirigeant, en l'occurrence. L'intelligence artificielle n'est pas nécessairement d'une grande aide, même si effectivement ça peut aider à faire des recherches, etc. Mais,
vous en servez un petit peu ?
Oui, pour le. Mais voilà, ça arrive à un moment charnière du processus, je dirais un peu au milieu. Donc il y a tout le travail de réflexion, d'élaboration d'un point de vue, de l'angle et de finalement ce qu'on a envie de raconter, le fil rouge. Et puis effectivement, parfois, l'intelligence artificielle peut intervenir à ce moment-là quand on a une vision extrêmement claire de ce qu'on veut coucher sur papier et aide à faire une première version, mais qui est souvent très, très désincarnée. Et donc là, il faut rajouter à la fin tout ce qui va donner ce fameux supplément d'âme qu'on recherche aujourd'hui.
Au niveau justement des trois étapes dont vous parliez plus tôt, la deuxième qui est le storytelling, le troisième qui est la création, le fait d'ancrer ça dans une réalité. Cette deuxième étape qui est le storytelling, elle prend quoi comme forme, on a envie de dire. C'est de manière générale une histoire que vous racontez, des guidelines, donc des lignes de conduite à avoir, ou bien des dessins, une manière de faire, un ton, une charte. Comment ça fonctionne?
C'est un fil rouge, c'est vraiment le...
Mais donc je viens chez vous et je dis, voilà, moi je ne sais pas trop bien faire, pourriez-vous m'aider à raconter l'histoire de ma boîte ?
Ce qui arrive souvent, et c'est ça qui fait, je pense, toute la force de la proposition de valeur de Bliss, c'est que typiquement, je peux arriver à ce moment-là. Alors, de ma boîte, mais la stratégie, en fait, c'est à nouveau, ça veut tout à rien dire. Donc il y a de la stratégie aussi à l'échelle parfois d'un plan, d'un programme, d'un projet. J'ai eu la chance de collaborer avec le service public de Wallonie sur certains projets ou programmes du plan de relance. Donc bref, c'est à tous les niveaux. Mais donc, je peux arriver par cette porte-là avec effectivement des gens qui me disent « Mais Jennifer, on a cette stratégie, elle nous semble tenir la route, mais on la raconte mal. C'est chiant. » Pour dire les trucs très platement, on ne parvient pas à inspirer les gens. Or, la plupart du temps, c'est des problématiques qui ne sont pas nécessairement folichonnes non plus. Et donc, comment parvenir à ce que les gens aient envie de nous suivre là-dedans, quelque part. Et souvent, les gens ne parviennent pas à raconter l'histoire simplement parce que le fond en amont ne tient pas la route, n'est pas suffisamment d'équerre. Et donc là, je remonte dans la proposition de valeur de Bliss. J'optimise la stratégie, puis je reviens au storytelling. Et pour répondre très concrètement à votre question, c'est un fil rouge la plupart du temps. C'est vraiment la question que Pierre Wunsch me posait à l'époque, c'est face à cette matière, quel est ton fil rouge ? Quels sont les éléments que tu vas vouloir avoir envie de raconter ? Alors souvent, comment est-ce qu'on procède ? Pour ne pas perdre trop de temps, on va d'abord essayer d'avoir l'architecture. Donc on ne travaille pas les mots, etc. C'est vraiment le fil dans sa plus simple expression. Et puis une fois qu'on est aligné là-dessus, on va commencer à mettre de la chair. Et là, on commence à avoir un texte qui se construit. Mais ce texte sera très générique. L'idée, c'est d'être en mesure après de pouvoir l'adapter aux différentes audiences.
Et ce texte, c'est celui qui doit être adapté ou adopté, j'ai envie de dire, par l'entreprise. Tous les travailleurs de l'entreprise, toute personne dans l'entreprise doit pouvoir s'y reconnaître, s'y retrouver. Ça fait partie aussi de ce processus de change management indirectement dont vous aviez parlé plus tôt.
Oui, et donc quand on est à l'échelle d'une entreprise, ce texte sera tout à fait essentiel. Et en général, et ça c'est ce que je fais moi, mais il va effectivement nourrir tout le processus de gestion du changement. La première chose dont ils ont besoin, c'est de l'histoire à raconter de façon effectivement à ce que les gens adhèrent.
Alors, on aborde aussi LinkedIn, qui est un réseau ouais. professionnel par essence. Est-ce qu'il y a une façon de s'exprimer sur LinkedIn? Oh, bah, oui. Y a-t-il des codes de bons usages à adopter sur LinkedIn?
Oui, là, il y en a tout plein et c'est vraiment des heures. Mais donc, moi, je me suis beaucoup formée sur LinkedIn parce qu'il ne suffit pas de savoir écrire, en fait. Hein, c'est plus complexe que ça. Donc, je disais, pour avoir du succès, entre guillemets, sur LinkedIn, il faut essentiellement trois choses. Il faut une stratégie éditoriale qui tienne la route, parce que l'objectif, et c'est le cas pour les dirigeants, ce n'est pas d'écrire pour écrire, ça n'a aucun sens, c'est d'écrire pour rencontrer les objectifs stratégiques de la boîte, et en l'occurrence une audience aussi. Et donc là, le lien avec la stratégie est très très fort, premier élément. Deuxième élément, il faut effectivement maîtriser un minimum l'algorithme, et il y a quelques règles de copywriting.
Comme quoi, par exemple, vous avez des trucs rapidement à faire ou pas faire ou à éviter?
Alors, trois trucs sur l'algorithme et des trucs qui me rendent folle hein, souvent. Il faut comprendre le principe de base de l'algorithme et que je vais expliquer de façon beaucoup trop simple. Mais il faut comprendre que l'algorithme va fonctionner par cercle concentrique. Donc, vous allez rédiger un post. La première chose que l'algorithme va faire, et on s'exprime comme si c'était un individu, mais voilà, mmh. il va attribuer une forme de score de qualité à votre post, score intrinsèque. Il va checker toute une série de choses. Et si notamment, il y a un lien externe dans votre post, il va se faire dézinguer tout de suite.
Donc, voilà, donc un lien, un site internet, une vidéo.
Il ne faut jamais renvoyer, ça peut se comprendre. LinkedIn n'a pas spécialement envie que son public quitte le réseau. Et donc les liens doivent toujours être en premier commentaire. Voilà, petite parenthèse. Mais donc, va fonctionner par cercle concentrique. D'abord, un score sur la qualité intrinsèque du poste. Et puis après, il va l'envoyer à un premier échantillon de votre réseau. Et il va voir là quel est le score d'engagement, de réaction. S'il est mauvais, il ne va pas pousser plus loin la visibilité du poste. Si par contre c'est bon, il va pousser de plus en plus selon le même principe. Ce qui veut dire, et c'est là que ça devient très concret, c'est que les 60 à 90 premières minutes sont tout à fait déterminantes. Mmh. Et donc il faut s'assurer que les gens réagissent et voient le poste. Ouais. Et donc, ce qui me rend folle, c'est que je vois des posts passer avec, pour le coup, beaucoup de substance, où il y a un vrai travail de réflexion, etc. Mais les gens, je le poste, par exemple, à 10-11 heures le soir, en se disant, c'est pas grave, les gens verront demain matin. Mais non,
à quelle heure on poste, alors ?
Ça, c'est le grand débat et il y a une réponse qui consiste à dire que tout le monde doit sentir sa communauté et savoir quand elle est en ligne. Il y en a d'autres qui vous diront que c'est important de poster quand vous êtes disponible parce qu'une des autres grandes règles, c'est qu'il faut pouvoir réagir évidemment aux commentaires. Et donc, si vous postez et puis que vous partez, ça n'a aucun sens. À nouveau, LinkedIn est un réseau social, donc on va essayer de générer les discussions, etc.
Mais en définitive, ce que vous dites, c'est qu'on a besoin de cette notion de community management, hein, qui va au-delà de la création des posts, quelque part, parce qu'il faut le poste, savoir quand on poste, le patron ou l'entreprise ou l'entrepreneur qui veut écrire sur son entreprise n'est peut-être pas, lui, disponible tout le temps ou en permanence devant son écran pour répondre et justement engager, répondre à sa communauté. Donc, c'est une évolution presque naturelle de Bliss, ça aussi, ou pas vraiment?
J'y suis pas encore. Donc aujourd'hui, moi, je rédige, point. Et puis les dirigeants font... Enfin,
ils poussent. Donc vous rédigez, vous leur envoyez, eux, ils postent.
Et eux, ils postent. Donc ils postent eux-mêmes. Et j'ai beaucoup de chance et je pense que j'ai aussi un persona de client qui est très spécifique. Mais que c'est des gens qui ne me délèguent pas le truc. On forme vraiment un duo. Ils sont engagés. C'est important pour eux. Et donc, ils sont très investis dans le contenu. Et donc, pour répondre à votre commentaire, c'est eux qui les gèrent. Ouais. Maintenant, c'est des dirigeants. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas grave. Hein. Le LinkedIn est juste une infime partie de leur vie.
Jennifer, c'est quoi le business model? Vous vendez quoi? Des heures? Vous vendez
Des abonnements. Donc, c'est un abonnement de X centaines ou milliers d'euros qui est dépendant des services et notamment de la fréquence des postes. Mais donc, c'est une logique d'abonnement.
Mais il y a un bon usage pour poster. On poste une fois par semaine, deux fois, parce que sur LinkedIn, il n'y a pas ce contenu.
Plus souvent même.
Il n'y a pas ce contenu comme sur Meta, sur Facebook, où on est sur un autre type de contenu, mais il y a, j'imagine,
alors,
un rythme ou une cadence.
Oui, je dirais que le minima, c'est je conseille moi du 2 fois par semaine.
D'accord. On accélère un tout petit peu parce qu'il reste moins de 8 minutes, mais il y a un dirigeant qui nous écoute aujourd'hui, qui souhaite prendre la parole sur les réseaux sociaux. Si on prend, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine où on prend la parole, ça coûte combien ?
Ça coûte combien ?
Ouais.
Alors, entre 1 et 2 fois, je dirais entre 1 000 et 2 000, 2 500 euros.
Par
mois.
Par mois. Très bien. Phénomène, alors...
Moi, j'ai peut-être une question encore là-dessus avant qu'on passe à autre chose. J'imagine qu'il y a des indicateurs de performance qui montrent la différence avant et après le passage de Bliss.
Oui, même si...
Comment ? Si c'est bien objectivé.
Oui, si c'est bien objectivé. Maintenant, ce n'est pas aussi ça, malheureusement. Alors oui, très clairement, il y a des taux d'engagement, etc. Et ça, on le voit. Hein.
Ça fait partie de vos arguments de vente ?
Ça fait partie des arguments de vente. Maintenant, il faut le vivre, je pense, comme processus. Mmh. Parce que... on n'a pas le temps, mais... C'est vraiment un trajet qui va bien, bien au-delà de la rédaction des postes. Et donc, ça, c'est en termes de valeur ajoutée pour le dirigeant, ça va au-delà de ça. Et les indicateurs, il y a les indicateurs sur LinkedIn, mais il y a tout aussi ce que ça va générer dans la vie réelle.
Généralement, votre engagement auprès d'une entreprise, il dure combien de temps ?
Ben ça, j'ai lancé le service il y a 7-8 mois, je dirais. Et on parlait de churn tout à l'heure. Churn zéro. Donc, j'en suis assez fière.
Tout le monde reste.
Ça veut dire que personne n'est parti en courant. Et pourtant, Dieu sait si quand même ça demande beaucoup de discipline et de persévérance. Mais donc, voilà, pas de réponse aujourd'hui.
Et la croissance, elle se fait au niveau des nouvelles entreprises. Vous avez une stratégie aussi par rapport à des domaines. Parce que j'imagine qu'il faut quand même des spécialistes un peu de certaines industries pour avoir une maîtrise de certains lingots et de certains thèmes.
Oui, sachant qu'un de mes gros arguments de vente, c'est que je veux qu'on soit tous force de proposition et qu'on puisse challenger le dirigeant, amener des idées, etc. Donc oui, il doit connaître effectivement le secteur.
On termine par 2-3 petites questions un peu Madeleine de Proust, Jennifer de Baptiste. Votre métier en un mot ?
J'en ai 2. Écrivain, fantôme.
Vous allez écrire un livre un jour ?
J'aimerais bien.
C'était une de mes questions.
Ah pardon,
pourquoi pas autrice un jour ?
Ouais.
J'aimerais bien. Mais j'ai envie que ça soit un livre un peu existentiel, philosophique, etc. En fait, donc je me suis dit qu'il fallait que je vieillisse un peu.
C'est peut-être déjà fait sous un autre nom. Vous êtes votre propre ghostwriter.
Ouais, non, j'aimerais bien, mais non.
un dirigeant vient frapper à votre porte. Quelle est la première question que vous lui posez ?
Quelle est la première question que je lui pose ? Qui il est ? Alors c'est marrant, Madeleine de Proust, j'utilise le questionnaire de Proust pour essayer de bien comprendre qui ils sont, parce que je dois écrire avec leur plume aussi. Hein. Il y a une question de style, donc le contenu c'est bien et le tone of voice aussi.
Voilà. Vous qui rencontrez justement plein de dirigeants, ça va être l'avant-dernière question avant la dernière de Serge. Quel est le dirigeant, le chef d'entreprise que vous aimeriez retrouver à votre place dans Mythe de Boss, peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après ?
Ouf, pas prévu ça du tout. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas du tout si vous recevez parfois des profils comme ça, mais
tout le monde.
Quelqu'un corporate, hein, pourquoi pas.
Bien sûr.
Munch, une Sophie du Tordoir, ces gens qui ont finalement
marqué
ma
carrière. On en a déjà eu et
ma carrière.
Ils sont toujours bienvenus.
On est preneurs.
La dernière question est pour moi. Quel est le conseil que quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans, qu'on ne vous a pas donné ?
Il y a un truc qui m'est cher, et c'est vraisemblablement, ça clôturera bien l'émission, que je dirai à mes enfants en tout cas, c'est que ce qui est valable un jour n'est pas nécessairement valable toujours, et qu'il faut pouvoir oser prendre des décisions qui vont parfois rebattre complètement les cartes de sa vie, mais qui nous permettent de rester en phase avec la personne qu'on devient, et pas nécessairement la personne qu'on était.
Mais vous avez, je pense, le titre sans doute de votre futur livre, hein ?
d'accord.
Voilà, si vous avez cherché un écrivain
fantôme... Non, ça n'a aucune chance, écrivain, aucune chance. Je veux bien relire.
Merci Jennifer de Baptiste d'avoir été avec nous dans Mythe de Boss.
Merci beaucoup.
Serge, à bientôt.
À bientôt Laurent.
Dans un instant, vous allez retrouver le grand journal de 18h, le journal de la rédaction.
Je fais des pliages de papier pour avoir la grâce d'un signe. À quoi faudrait-il ressembler pour être digne de toi? Les amours adultes, j'en suis sûr. Comme à la pêche à la ligne, la sirène m'aura à l'usure. Elle est maligne comme toi. Ma plus précieuse compagnie, je cherche d'autres étoiles dans la nuit. Sans ta précieuse compagnie.